Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au féminisme décolonial d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Et pour parler du féminisme décolonial, nous sommes avec Sabine Masson, militante féministe, juriste et docteur en sociologie, engagée auprès d'organisations indigènes, notamment au Mexique et au Honduras, où elle a mené à la fois des travaux de recherche et elle s'est engagée politiquement. Et donc l'émission d'aujourd'hui sera autour de son livre paru aux éditions Antipode en 2016 qui s'appelle « Pour une critique féministe décoloniale » qui est un ouvrage très intéressant à la fois sur des perspectives théoriques de décoloniser le féminisme et la théorie critique plus généralement, et également qui s'appuie sur un travail d'enquête et d'engagement aux côtés des mouvements de lutte indigènes, et plus spécifiquement de femmes indigènes et de féministes, notamment au Honduras et au Chiapas. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette émission. Donc bonjour Sabine Masson.
Bonjour.
Alors, pour commencer, pour mettre les plats dans le pied, qu'est-ce que le féminisme décolonial, qu'est-ce qu'il a de différent avec le féminisme plus général, et en quoi est-ce que c'est important de décoloniser le féminisme, et comment est-ce que tu te positionnes, et comment est-ce qu'on doit se positionner, disons, lorsque précisément on n'est pas des personnes colonisées par rapport à ces enjeux.
Alors, d'abord, merci pour l'invitation à votre émission. Je dirais que... Alors, je vais peut-être commencer par parler de, justement, ma position de personne qui n'est pas colonisée, de femme blanche, qui vit ici dans un pays riche, donc en l'occurrence en Suisse. Et c'est clair que ce livre, donc, comme c'était dit au début, donc ce livre part d'abord de mes travaux et de mon engagement avec des collectifs indigènes et en particulier avec des collectifs de femmes indigènes. Donc toute la réflexion sur la volonté, la nécessité de décoloniser le féminisme et plus largement de décoloniser nos pensées, nos esprits et les rapports sociaux est partie vraiment de cette expérience-là, une expérience bien particulière de mon travail pendant 10 ans, plus ou moins entre 2000 et 2010, au sud du Mexique, donc au Chiapas, avec des collectifs de femmes indigènes et au Honduras, dans deux régions, dans une région du nord, une région caraïbe avec des populations garifunas, et dans les régions des hautes terres avec des populations lenca. Donc c'est vraiment cette rencontre, d'abord en tant que militante, ensuite en tant que chercheuse, avec des collectifs indigènes en lutte, qui m'a conduite. Alors certes, j'avais au départ aussi des réflexions sur des questions antiracistes, des questions anticoloniales, d'autocritique des féminismes blancs. Mais c'est quand même, je pense, dans cette situation-là, de cette rencontre très concrète avec ces collectifs, que j'ai été amenée à approfondir la question des féminismes décoloniaux, des féminismes dits intersectionnels, qui prennent en considération la manière dont s'imbriquent plusieurs rapports de domination. Voilà, et en particulier du fait que, je dis souvent, j'ai appris l'intersectionnalité aussi dans cette rencontre, en particulier avec des femmes indigènes et des féministes indigènes qui sont contraintes de lutter sur de nombreux fronts. Et dans leur lutte sur de nombreux fronts, eh bien, elles s'adressaient aussi à moi. En tant que femme blanche, en tant que féministe blanche, elles avaient des choses à me dire. Et comme l'ont souligné des féministes, black féministes ou féministes afro-états-uniennes, les femmes blanches, les féministes blanches, on a à écouter, je dirais, voilà, à écouter ce que les femmes racisées ont à nous dire pour penser ses privilèges, penser d'où on parle, penser des choses qu'on n'a peut-être justement pas pensées. J'estime que dans des collectifs féministes dans lesquels j'étais beaucoup active ici en Suisse dans les années 90, il n'y avait pas nécessairement une vision intersectionnelle et décoloniale. Donc, j'ai repensé un certain nombre de questions, de sujets, de thèmes dont on pourra peut-être y revenir. Donc voilà, ça c'est en introduction pour dire que c'est vraiment de cette expérience-là et aussi de ma position à moi que j'ai été convaincue et j'ai souhaité réfléchir sur la décolonisation de nos pratiques féministes, d'ailleurs pas seulement féministes, hein, j'insiste, hein, de pratiques militantes, aussi de pratiques de recherche, on pourra y revenir peut-être. Et du coup, pour arriver à la question plus générale, donc pour moi, ça implique, alors il y a d'innombrables définitions des féminismes décoloniaux ou des théories ou des interventions féministes décoloniales. Je peux juste parler de ce que moi je vois les choses et ce qui m'a fortement marqué. Ça commence, à mon avis, en tout cas en tant que femme blanche, par une déconstruction de sa position, notamment par rapport à un risque, une tendance, ou parfois une réalité quand même, de généralisation ou d'universalisation à partir d'une position dominante, d'une position de femme blanche, de femme de classe plus aisée, ou de femme, de femme qui n'est pas issue des colonisations, de l'esclavage. Et par conséquent, de penser en fait le féminisme universel à partir d'une position particulière, elle, invisible, est de penser toujours les femmes racisées et les femmes issues des colonisations qui ont issues des migrations, issues de l'esclavage, comme les autres. C'est toujours cette idée de, voilà, soit on est défini soi-même comme la norme, mais norme invisible, et puis les autres, les personnes différentes, différenciées, marquées par cette différence coloniale, mais justement pas pensées, pas conscientisées. Donc, je pense que le féminisme, comme beaucoup de théories, de pensées, de courants militants, critiques, également, je pense, en sciences sociales, le féminisme a aussi été traversé par cette tendance-là à ne pas penser sa position dominante, et en particulier sa position dominante dans les héritages colonialisme, dans la continuité des pratiques et des représentations coloniales. Je vous donne un exemple peut-être à ce stade. Ça fait des années, voire plusieurs décennies, qu'on nous sert des discours autour de l'égalité et de certaines populations qui auraient des pratiques qui seraient plus sexistes, moins égalitaires. On pense évidemment à tous les discours sur la question du voile ou la question des violences dans les quartiers et qui, par opposition, présente en fait les femmes non racisées, les femmes blanches, et les cultures dites européennes, comme étant plus marquées par une sorte d'avancée, de l'émancipation. Et là, on est clairement dans une hiérarchisation des collectivités, une hiérarchisation des cultures, à travers ces discours sur l'égalité, qui, à mon avis, reposent sur des catégories qui sont les catégories postcoloniales, où on sait d'ailleurs que le discours sur le genre ou sur l'égalité a été utilisé à complètement traverser de nombreux empires coloniaux, de nombreux discours coloniaux. Mais là, à mon sens, on est vraiment dans des formes de reproduction de ces discours-là. Donc voilà, c'est un exemple. Donc pour dire à quel point le féminisme compris, mais comme d'autres courants critiques, doit, à mon avis, penser comme la manière dont il a pu être traversé par par ces catégories. Et puis, et penser aussi des thématiques qui ont pu être justement marquées par cette position dite universaliste. Pour reprendre des exemples, alors dans le contexte que j'ai étudié, par exemple au Chiapas, les femmes indigènes ont mis en avant le fait que les femmes blanches ou métisses, donc qui sont dominantes dans les rapports de race au Mexique, avaient pensé la question de la contraception et du droit à l'avortement libre et gratuit, ce qu'elles ne remontent évidemment pas du tout en question. Mais la question des stérilisations forcées n'avait pas nécessairement été pensée comme aussi un enjeu, un problème qui relevait aussi des féminismes, des luttes des femmes. Et que voilà, cette question du droit à la reproduction aussi bien que du droit à décider de ne pas avoir d'enfant, mais du droit aussi de ne pas voir son corps contrôlé par des politiques... des ONG, de la Banque mondiale qui visent les femmes pauvres, les femmes indigènes, où on voit encore aujourd'hui que les femmes racisées au Mexique se voient proposer systématiquement comme mode de contraception des modes de contraception définitives. Voilà, c'est des choses qu'ont relevé par exemple des auteurs et militantes afro-états-uniennes, black féministes comme Angela Davis qui rappelait justement le fait qu'il y a que ce poids, cette pression sur le corps des femmes, elle ne s'exprime pas du tout de la même manière s'il s'agit de femmes blanches qui sont amenées à reproduire la nation ou si on parle de femmes indigènes, femmes noires, femmes racisées qui justement vont être très vite dans ce type de contrôle de leur corps pour qu'elles aient moins d'enfants. Donc voilà, c'est par exemple ce genre de sujet où si on veut avoir une perspective décoloniale et aussi intersectionnelle, ce mot un peu compliqué pour dire simplement qu'il faut avoir une vision qui prend en considération les différents points de vue des différentes personnes dominées, parce que le féminisme évidemment jamais été homogène, et puis qu'il y a des rapports de pouvoir entre les femmes dans le féminisme, qu'il y a des femmes qui exploitent d'autres femmes, enfin évidemment. Donc si on veut voir tous ces rapports-là imbriqués, et si on veut penser les différents types des femmes d'une manière qui soit pas justement nous l'universel face aux autres, disons les différentes, hein, qui est à mon avis une vision vraiment coloniale des choses, il faut aller vers cette vision qui permet d'être plurielle et d'avoir une autre, aussi une transformation des thématiques qui sont abordées. Mais pour moi, c'est vraiment cette nécessité-là de déconstruire un pseudo-universalisme, de la même manière d'ailleurs qu'il y a une critique féministe qui vise à déconstruire un universalisme singulier masculin. Enfin, pour moi, il y a vraiment un parallèle à faire dans ce sens-là, hein. Mais que du coup, si on déconstruit l'universel singulier masculin, il faut faire le même travail par rapport à des femmes blanches qui ont pu avoir une vision, par exemple, ce que dit par exemple la féministe indienne Chandra Mohanty, qui vit aux États-Unis, qui sur la manière d'objectiver aussi les femmes du tiers-monde, par exemple, comme un bloc, une entité presque, où les femmes seraient toujours nécessairement aux prises avec la tradition, aux prises avec l'illettrisme, avec l'oppression. Voilà, des formes de vision extrêmement objectivantes plutôt que justement d'écouter les différentes luttes et leurs différents processus d'autodétermination, chacune dans sa position, avec peut-être des alliances qui sont possibles, mais peut-être des alliances qui ne sont pas possibles. Enfin, c'est aussi ça pour moi. Les féminismes décoloniaux, c'est aussi reconnaître que moi, en tant que femme blanche, il y a des espaces où je n'avais pas, qui doivent être des espaces, si ça m'est signifié que ce sont des espaces pour les femmes racisées, voilà, c'est clairement pas mon espace. Et puis, moi, en tant que femme blanche, j'ai à travailler sur mes privilèges, sur ma position, sur ma situation aussi. Donc, c'est aussi peut-être repenser l'articulation des luttes, dans le sens où, je pense que souvent une critique qu'on fait à la perspective décoloniale, mais de manière plus large, c'est ça communautarise, c'est du relativisme culturel. Ça, moi je pense pas. On m'a souvent posé ce discours-là, y compris des féministes. Je pense pas. Si on est dans une analyse matérialiste des rapports de pouvoir, et si on dit clairement qu'il s'agit en fait de de penser différentes positions de différents groupes qui s'entrelacent, qui parfois peuvent se retrouver, dans un mouvement féministe, par exemple, sur les questions des violences à l'égard des femmes. Il y a un exemple au Chiapas qui est assez intéressant. Il y a eu tout un mouvement dans les années 80, début 90, qui était un mouvement mixte avec des femmes métisses et des femmes indigènes, donc racisées en Mexique, et qui ont pu faire des alliances dans ce mouvement. Mais, justement, où les femmes indigènes ont aussi posé leurs limites, ont aussi interpellé les femmes métisses en disant, ben voilà, ça, par exemple, cette question des stérilisations, vous ne l'avez pas abordée, là, vous ne laissez pas la parole, là, vous êtes des expertes dans les ONG, nous, on est dominés dans ces espaces-là. Donc, il y a des espaces qui devaient être des espaces propres, et il y a aussi des disputes, peut-être, des conflits qui devaient être posés. Donc, ouais, pour moi, la décolonisation des pratiques féministes, c'est aussi repenser la manière dont on peut faire des alliances qui respectent la pluralité des positions et l'autonomie des positions, et le fait que tout mouvement, tout groupe social est finalement traversé par des rapports de domination et jamais homogène, et que par conséquent, cette hétérogénéité-là et les rapports asymétriques dans un groupe ou dans un collectif, ben, ils doivent être abordés, enfin, ils doivent être conscientisés, ils doivent être pensés, parmi les nombreuses pistes disons, qu'on pourrait évoquer.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'on a abordé pas mal de choses assez importantes. Tout d'abord, tu as parlé de l'intersectionnalité, enfin que comme tu le dis dans ton livre, qui est un concept développé par Kimberly Crenshaw, même s'il y a des antécédents, en même temps une théorie critique et en même temps presque une pratique de lutte, qui vise à articuler, les rapports de classe, les luttes de classe, les rapports de genre et les luttes de genre. Et là, bon, il faut tout de suite préciser parce qu'on est dans une émission française, et les rapports de race au sens, comme d'ailleurs pour la classe et le genre, d'une catégorie socialement construite par la domination et par l'oppression. Et là-dessus, on renvoie à une autre émission qu'on a faite avec Zaskia, qui justement s'intitulait pour une théorie matérialiste du racisme. D'ailleurs, le fait de penser les trois en même temps comme imbriqués, c'est-à-dire le fait que finalement tout le monde se... Et d'ailleurs, c'est pas valable que pour les personnes qui sont opprimées sur les trois plans, mais c'est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas opprimées sur les trois plans. Et tout le monde est pris dans ces rapports de manière différenciée. Et c'est pour ça d'ailleurs que Daniel Kergoat a proposé le concept de consubstantialité des rapports sociaux. C'est une autre... Il y a des subtilités théoriques de différence entre les deux. Du coup, ça va te faire avec la question, comme tu disais, du point de vue situé, c'est-à-dire le fait que, à la fois épistémologiquement, du point de vue du savoir et en même temps politiquement, le fait d'être un homme blanc de classe moyenne n'est pas la même chose que d'être une femme blanche de classe moyenne, n'est pas la même chose que d'être une femme racisée de classe moyenne, n'est pas la même chose que d'être une femme racisée de classe populaire, etc., etc. Et évidemment, ça a des implications politiques. L'implication qu'on peut voir, disons, plutôt pour les groupes dominants, c'est, comme tu l'as dit, la nécessité d'une déconstruction matérialiste, qui n'est pas uniquement proclamée, mais aussi matérielle. Et là-dessus, on peut renvoyer aux travaux de Léo Thiers-Vidal. D'ailleurs, tu as édité un livre dessus.
J'ai pas édité personnellement, c'est un travail collectif aux éditions Bondule.
Voilà, et qui s'appelle, comme tu me l'as dit, Rupture anarchiste et trahison pro-féministe. Voilà, et aussi on peut renvoyer à une autre émission avec Francis Dupuy-Déry sur les hommes pro-féministes et l'anarcho-sexisme. Alors, autre chose qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'est toute la partie sur la question finalement du colonialisme. Ce que j'ai trouvé intéressant très intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu critiques un peu le concept de post-colonialisme dans le sens où déjà il y a effectivement tout un courant universitaire qui s'est emparé du post-colonialisme et qui du coup l'a un petit peu amoindri sa puissance critique, disons, mais aussi parce que ça peut donner l'impression qu'on est sorti du colonialisme et qu'on est dans une espèce simplement d'héritage un peu lointain, alors que bon, dans un certain nombre de cas, clairement, on n'est pas, enfin clairement, par exemple dans les terrains que tu as étudiés, c'est difficile de parler de situation post-coloniale, et finalement les concepts comme la colonialité ou le néocolonialisme paraissent effectivement être des choses plus intéressantes. Surtout que ça met vraiment l'aspect sur les continuités avec le colonialisme. Tu as cité quelques exemples que je trouvais assez intéressants. Bon, notamment la question du voile en France. C'est vrai que en général, on ne sait pas trop que cette question a déjà été posée pendant la guerre d'Algérie et que l'armée française a organisé des campagnes de dévoilement, complètement montées de toutes pièces par les parachutistes de la bataille d'Alger en 1957. Enfin, ce qui montre bien que finalement le nationalisme peut instrumentaliser l'égalité de genre entre guillemets ou l'émancipation des femmes d'un point de vue notamment colonial ou néocolonial aujourd'hui en France avec la question du voile. Et ce que je trouvais aussi très intéressant dans ton livre, quand, à un moment tu parles de culturisation du patriarcat. Ça c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement dans les discours et c'est quelque chose que tu montres sur le cas français comme sur le cas suisse, on a l'impression quand on entend les discours sur l'égalité de genre en France et en Suisse que finalement le patriarcat c'est l'autre, c'est d'autres cultures qui sont patriarcales, mais nous en Europe depuis la nuit des temps, voilà, on serait féministe pour l'égalité et tout ça, alors que bon, ça fait quand même doucement rigoler quand on connaît l'histoire de la France et de la Suisse là-dessus. Après, autre chose que tu as évoqué, qui est très intéressant dans ton livre et qui est abordé aussi par exemple par Françoise Vergès dans son livre sur le ventre des femmes, c'est sur le fait que précisément, voilà, le fait de dire il n'y a pas de sujet universel des femmes, c'est pas uniquement une espèce de discours, c'est aussi parce que matériellement effectivement, François Vergès le montre bien, d'un côté en France on interdit l'avortement et la contraception et en même temps en Réunion il y a une politique alors plus ou moins officielle, mais disons qui favorise qui opère des stérilisations forcées. Et tu donnes aussi un autre exemple dans ton livre, la question du travail, sur le fait que cette revendication de travailler pour être libre est quand même une revendication qui est plutôt liée aux femmes blanches de classe moyenne d'ailleurs, parce que même d'ailleurs on pourrait dire même les femmes blanches ouvrières déjà c'était une revendication qui parlait un petit peu moins parce qu'elles étaient déjà plus contraintes de travailler depuis le 19e siècle et avant. Et c'est vrai que bon là effectivement pour les femmes racisées, cette revendication du travail pas forcément la revendication la plus essentielle. Et aussi à un moment tu as parlé justement de comment est-ce que le féminisme occidental se représentait les femmes du tiers-monde comme une catégorie très homogène, et ça m'a fait penser, parce que tu en parles dans ton livre, à l'orientalisme, sur le fait comment est-ce que il y a une forme de presque de misérabilisme orientaliste. Voilà, et après, pour finir, tu as fini là sur la question des alliances et des conflits, qui tranche un petit peu avec une vision peut-être qui était plus celui du féminisme des années 70, où il y avait un sujet homogène. Et en fait, ça peut paraître, on pourrait se dire, ah oui, mais encore une fois, on brise l'unité de la classe, en l'occurrence de la classe des femmes. Et finalement, c'est pas si étonnant que ça. Quand, par exemple, on transpose à la question de la classe, dans la question de la classe aussi, dans la classe ouvrière, il y a des fractions très différentes qui représentent des intérêts différents. Enfin, il ne faut pas prendre l'unité du sujet politique des femmes ou des prolétaires comme un acquis, mais comme, qui est en discussion et voir si les intérêts, tout simplement, ne convergent pas du tout. Et justement, là-dessus, tu donnes pas mal d'exemples de mouvements de femmes d'Amérique du Sud et des Caraïbes et de mouvements féministes d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Et est-ce que tu peux un petit peu nous parler un petit peu de comment est-ce qu'elle elle se positionne par rapport à ces questions d'alliance, comment est-ce qu'elle se positionne aussi par rapport à ce qu'elle se dit féministe ou pas, comment est-ce qu'elle se positionne par rapport au mouvement de lutte indigène plus général, parce que là pour le coup il y a vraiment vraiment des féminismes décoloniaux, parce que c'est une situation très différente.
Alors ouais, c'est très très vaste. Alors peut-être plutôt que de parler des féminismes d'Amérique latine et des Caraïbes, je peux peut-être parler de quelques mouvements et collectifs dans les régions étudiées, donc dans le contexte du Honduras et du Mexique. Alors, comme je disais au tout début, où j'ai été interpellée, où j'ai été dans des échanges qui m'ont amené à repenser justement ma position, parce que de nombreuses femmes ne se disaient pas du tout féministes. Même le fait que moi je me disais féministe, ça pouvait avoir, ça pouvait constituer pour des personnes racisées, pour des femmes indigènes, une vision de moi comme de faisant partie clairement d'une base dominante, d'une position dominante. Parce que de nouveau, je pense qu'il faut faire très attention à pas généraliser, parce que à mon sens ce serait tout autant reproduire des catégories coloniales que de dire que des femmes indigènes ne se disent pas féministes. Ça serait, enfin ouais. Donc il y a une diversité des positions, au même titre qu'il y a une diversité des positions ici. Enfin, comme il y a une diversité, comme c'était dit, une diversité des positions dans les mouvements ouvriers. Voilà. Donc ça c'est une évidence. Mais effectivement, pour certains collectifs de femmes indigènes, pour certaines femmes indigènes, c'était le féministe est rattaché à des positions, par exemple, de femmes métisses qui ont pu avoir des positions d'expertes dans des ONG, qui finalement sont celles qui voyagent dans les conférences de l'ONU, celles qui ont un accès à la technique, au savoir, aux espaces publics, beaucoup plus que des femmes indigènes. Et que, par conséquent, il y a une sorte de division du travail aussi, une division racisée du travail militant qui va s'opérer, où les femmes indigènes n'ont pas la même visibilité. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, par exemple, dans le contexte des mouvements au Chiapas, mais aussi que j'ai pu voir dans le cadre de, par exemple, de contre-sommets, où j'ai participé à plusieurs contre-sommets contre des accords de libre-échange, contre la mondialisation, par exemple à Quito au début des années 2000, ou à Cancun contre l'OMC, ou ces grandes réunions, grandes manifestations où il y avait de nombreux mouvements paysans et indigènes, dont beaucoup de collectifs de femmes, et où on voyait parfois cette espèce de bizarre organisation. Il y avait d'un côté des discussions, des débats, des conférences sur le genre, sur les femmes, le féminisme, autour de mondialisation, le féminisme, et puis de l'autre, les mouvements indigènes, les discussions autour des questions, d'impact, des traités de libre-échange sur les communautés, la question peut-être plus de l'écologie, la question l'accès à la terre, la question de la souveraineté alimentaire, où là pour le coup il n'y avait pas vraiment un discours féministe en fait présent, et au contraire où les femmes indigènes disaient nous on veut rien avoir avec certaines, de nouveau pas toutes, femmes indigènes pouvaient dire qu'elles ne voulaient pas avoir un discours féministe ou un discours sur le genre. Des concepts comme le genre par exemple étaient souvent fortement perçu, mais à raison, comme étant lié aux organisations internationales, aux politiques de développement, aux politiques de la coopération internationale, mais parce que, en tout cas dans plusieurs pays, mais en tout cas au Mexique, c'est quelque chose qui a été problématisé par des féministes autonomes du mouvement féministe latino-américain. Le genre a été un concept qui a été plutôt introduit non pas par des courants féministes disons de base, mais plutôt par des programmes en fait, des programmes de développement et où pour beaucoup de femmes indigènes c'était parler d'égalité, parler de genre, mais en fait c'était vraiment lié à des positions de femmes dominantes, d'expertes dans ces programmes là. Mais voilà, je pense qu'il faut il faut nuancer parce qu'il y a aussi de nombreux passages, de nombreux échanges, et aussi des formes d'appropriation de certaines théories féministes par les femmes indigènes. Et il y a aussi, bien sûr, le fait que les femmes indigènes et des féministes indigènes, parce que certaines se définissent comme féministes indigènes, vont produire leur propre théorie, leur propre analyse, leur propre réflexion à partir de leur position aux intersections de plusieurs dominations, mais aussi à partir de la philosophie, des philosophies indigènes. C'est quelque chose qui est très très important pour les collectifs de femmes indigènes, c'est que certaines vont vraiment utiliser des images, des imaginaires qui sont liés à une réappropriation de l'histoire préhispanique, donc de voilà, une construction, une réflexion qui part pas du tout, par exemple, d'une question, je sais pas, de l'égalité libérale, que chaque individu doit être libre, ou que d'égalité entre les sexes, voilà, sur des visions beaucoup plus libérales occidentales, mais qui partent plutôt de questions comme celle de la complémentarité dans les espaces préhispaniques. Elles vont plutôt utiliser ce type d'images et de réflexions et de symboles pour, en fait, légitimer leurs revendications au sein des communautés, par exemple en exigeant plus de participation vis-à-vis des hommes indigènes, mais aussi vis-à-vis des féministes métisses ou blanches, en exigeant là aussi qu'elles aient un espace propre dans les mouvements, mais justement à partir d'une histoire qui pense forcément leur lutte aussi à partir de la question de la décolonisation, puisque voilà, elles sont dans des espaces où je sais pas, dans certaines régions où j'ai travaillé au Chiapas, où les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont plus ou moins de ma génération des années 70, leurs parents elles-mêmes ont grandi dans des fincas, des grands domaines qui étaient tenus par des patrons dans la région. Leurs parents n'avaient pas de salaire, c'est des gens qui travaillaient, qui étaient complètement asservis au domaine, c'était même pas des salariés. Donc quand elles me parlent de cette histoire de servitude agraire, elles me parlent de leurs parents comme des esclaves. Donc, c'est-à-dire qu'on parle des années 50, 60, enfin, c'est quand même très fort. Et effectivement, c'est cette histoire-là qui les ont marquées, c'est de là qu'elles parlent. C'est à partir de là, elles ne peuvent pas penser, par exemple, à l'émancipation des femmes, sans penser la question de la servitude domestique dans les villes, qui fait que, comme aux États-Unis, la domesticité est extrêmement liée à la question de la race. Au Mexique et dans beaucoup d'autres pays, je pense qu'on pourrait avoir cette analyse-là. C'est quand même de manière assez systématique les femmes racisées, les femmes indigènes qui sont assignées à la domesticité dans les villes ou dans les petites villes. De la même manière, la servitude agraire que vivent les femmes indigènes, elles vont faire les travaux les plus pénibles, souvent pas rémunérés. Et les hommes aussi vont faire des travaux qui sont souvent qui ont même pas un statut, disons, de dans un rapport salarial comme on le connaît ici. Donc c'est toute cette histoire-là qui fait que nécessairement elle développe un discours sur le genre qui est marqué par cette histoire-là, qui implique de se libérer, par exemple, des petits patrons racistes dans leur village, dans leur région, qui implique que peut-être, je sais pas, le féminisme des années 70 a eu une énorme force qui a été de déconstruire la famille, de dire le privé et politique, que par exemple la violence, souvent très invisibilisée, c'est celle qui se passe dans la famille. Alors, les femmes indigènes vont aussi mettre le doigt là-dessus, mais la question de la violence dans l'espace public, par exemple, dans les institutions, dans les transports publics, le fait qu'en tant que femme elles portent peut-être un habit indigène, parfois elles n'ont pas de souliers, elles portent leur enfant d'une manière qui n'est pas la même que les femmes métisses ou blanches. Donc tous les espaces, disons, institutionnels, publics, quand elles doivent aller au marché, elles sont soumises à une violence que ne vivent pas les femmes blanches ou les femmes métisses. Donc tout ça est pensé de manière imbriquée, ce qui fait que, alors, pour revenir à la question sur les différents courants ou manières de se positionner ou pas comme féministes, ce qui fait qu'elles vont parfois se reconnaître dans des alliances avec des femmes non racisées, parce que peut-être il y a un espace justement pour échanger de manière, disons, respectueuse, mais dans certains contextes, ça va aussi dépendre des contextes d'histoire coloniale de chaque région, de chaque pays, hein, ça va vraiment avoir une grosse influence, mais dans certains contextes, par exemple en Bolivie, il y a des collectifs qui vont avoir plutôt une forte distance par rapport aux groupes plutôt féministes, disons, qui se disent plutôt féministes. Alors que ben, au Mexique, on voit qu'il y a quand même plusieurs aussi intellectuels indigènes qui vont se dire aussi féministes ou de courant ou des femmes indigènes qui vont avoir des échanges avec des collectifs féministes. Donc, je pense qu'on peut pas établir. Enfin, il y a forcément une immense diversité, mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, dans mon observation et dans mon expérience personnelle aussi en tant que féministe blanche, eh bien, il y a en tout cas il faut en tout cas penser le fait qu'il n'y a pas une évidence, il n'y a en tout cas pas une évidence de rattachement au féminisme, du fait de tout ce contexte que j'évoquais. Et ça, je pense qu'une manière de décoloniser le féminisme, c'est en prendre acte. C'est-à-dire ne pas être sur des positions réactives ou, comme j'ai pu parfois entendre, hein, genre alors oui mais la philosophie indigène, ça reproduit des formes de sexisme ou les coutumes indigènes. Et du coup là on est de nouveau dans un discours qui plaque en fait une analyse souvent raciste sur des pratiques de genre, enfin, sur des rapports de genre dans les communautés. Et à l'inverse, ce que moi j'essaye de faire aussi à travers le bouquin, que j'ai essayé de faire aussi dans mes échanges avec les collectifs indigènes, c'est plutôt d'écouter, de voir, de comprendre, de moi me remettre en question aussi, parce que ça m'a aussi demandé un travail. Par exemple, le rôle de la religion, il y a un rôle très important de la religion, de l'apologie de la libération, qui a pu être utilisé par des femmes comme des espaces pour se libérer dans des contextes où il n'y avait aucun espace où elles pouvaient se réunir, par exemple. Ou le fait de, justement, se réapproprier des imaginaires autour d'une philosophie indigène, d'un passé préhispanique. Ça m'a aussi demandé de pas me braquer en me disant « Ah oui, mais bon, la complémentarité dans l'espace préhispanique, c'est une idéalisation. » Ben non, il fallait aussi que je me dise « Mais nous, on a aussi nos imaginaires pour construire l'égalité. » J'essayais plutôt de comprendre ces imaginaires-là comme des manières, finalement, autonomes de lutte de femmes pour leur autodétermination à partir de leurs différentes positions, des différents croisements d'oppression. Et pour moi, décoloniser le féminisme et décoloniser, en fait, aussi les rapports sociaux et les mouvements, c'est justement être capable d'entendre et de se questionner. Voilà, qu'est-ce que moi ça me fait quand j'entends leurs critiques, quelles sont ces pratiques de lutte qu'elles ont, et qui sont peut-être qu'ils ne se disent pas féministes, mais qui sont parfois bien plus radicales que les nôtres. Et voilà, donc c'est pour moi, ça aussi, reconnaître ces différents mouvements, ces différents courants, c'est aussi une manière de décoloniser le féminisme, en fait.
Dans ce que tu dis, en fait, on voit qu'il y a... Enfin, et en fait, ça, c'est lié à la consubstantialité des rapports sociaux. C'est qu'il y a un peu il y a presque des tensions entre, d'une part... la nécessité d'une espèce d'unité du mouvement indigène contre les politiques néolibérales, et en même temps le fait que, par exemple, malgré tout, certaines féministes, certaines femmes indigènes choisissent quand même de s'allier avec des femmes métisses. Il y a aussi une tension entre, d'une part, le féminisme apparaît comme largement lié à des organisations de développement qui sont liées aux politiques néolibérales en Amérique du Sud et aux Caraïbes, et en même temps se retrouver face à malgré tout le fait qu'il y a malgré tout des pratiques patriarcales dans le mouvement indigène. Et du coup, par rapport à ça, je sais que t'as pas particulièrement travaillé dessus, mais j'avais trouvé que le féminisme, la position, enfin les positions développées par le féminisme communautaire en Bolivie, je trouvais ça assez intéressant, la manière dont ils essayaient de presque dépasser, entre guillemets, est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Alors, je n'ai pas travaillé en Bolivie, donc je connais très mal, mais je parle un tout petit peu dans le livre de cet exemple de l'Assemblea Feminista, un collectif qui est issu d'un mouvement qui s'appelait les Mujeres Creando, qui est en fait un collectif qui a existé pendant de nombreuses années, voire voire plus d'une dizaine d'années, mais qui a ensuite opéré une scission. Et une de ces scissions, c'est justement l'Assemblée Féministe, qui est un courant qui est à la fois constitué de femmes et de féministes et de lesbiennes indigènes, et qui est donc aussi proche des communautés indigènes, des quartiers aussi indigènes à La Paz, et des luttes des quartiers, des luttes des communautés, en lien par exemple avec des questions d'accès aux ressources, de souveraineté alimentaire, de questions par exemple de l'accès à l'eau. Donc il y a vraiment cette préoccupation matérielle en lien avec la situation des populations indigènes, en lien avec la continuité des rapports coloniaux, et en même temps, un ancrage dans une critique du patriarcat, considéré comme un patriarcat qui est considéré comme étant à la fois occidental, mais à la fois aussi ancestral, dans le sens où justement, enfin, il me semble qu'en tout cas l'Assemblée féministe, ils ont cette position qui est vraiment intéressante, qui est de dire qu'on ne peut pas dire que le patriarcat est un problème uniquement occidental, mais que c'est aussi, un système de domination qui touche aussi les communautés indigènes et l'histoire préhispanique et l'histoire des peuples indigènes. Donc ils essayent justement de croiser en fait ces différentes dominations, mais toujours quand même avec une vision très critique. En Bolivie, il me semble qu'il y a justement des échanges qui ont pu être assez forts entre féministes indigènes et féministes métisses, mais aussi en lien avec le caractère aigu aussi de la violence à l'égard des populations indigènes, l'exclusion, la ségrégation, le racisme. Mais du coup, il y a effectivement ces discussions qui peuvent être vives, mais avec certaines positions qui allient en effet une réflexion féministe, une réflexion, anticoloniale, indigène, décoloniale, et de réflexion autour de la philosophie indigène aussi. Donc c'est vrai qu'il y a cette articulation-là, je pense. Et il y a aussi un courant féminisme communautaire de femmes chincas au Guatemala, qui a aussi développé ce type de position, un peu aux intersections, entre une position féministe et une position indigène en lutte. Et au Chiapas, dans une mesure différemment en fait, mais je pense que dans le cadre des mouvements indigènes au Chiapas et des mouvements de femmes indigènes au Chiapas, notamment dans le cadre du mouvement zapatiste, mais pas uniquement, on a un peu souvent tendance à identifier mouvements indigènes et mouvements zapatistes, mais les mouvements indigènes sont bien entendu beaucoup plus larges. Mais c'est vrai qu'il y a eu dans le cadre notamment des mobilisations autour des revendications zapatistes qui ont touché la société civile quand même d'une manière extrêmement forte, extrêmement large. Il y a eu quand même des très très grandes mobilisations. Puis dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de congrès, de colloques, d'espaces, de débats, de rencontres de femmes indigènes, de femmes métisses et indigènes, de femmes aussi étrangères au niveau international, blanches qui venaient ici dans les communautés. J'ai l'impression que dans le cadre de cette mouvance-là, surtout dans les années fin 90, début 2000, il y a eu effectivement aussi l'émergence de discours féministes indigènes qui croisent vraiment beaucoup les différentes positions, les différentes luttes, et qui s'approprient aussi un discours féministe, ou en tout cas un discours sur les droits des femmes, même si la notion peut-être de féministe n'est peut-être pas toujours celle qui est revendiquée.
Et justement, ça nous amène sur... On en a un petit peu parlé tout au long de l'émission, mais peut-être là, c'est le moment de s'y attarder plus longuement. C'est le fait que cette fracture, une des grandes fractures du coup dans les féminismes d'Amérique du Sud et des Caraïbes, c'est entre les féministes institutionnelles et les féministes autonomes. Et les féministes institutionnelles étant souvent métisses et les féministes autonomes étant souvent indigènes. Et du coup, est-ce que tu pourrais parler, alors peut-être un peu brièvement justement de cette fracture, d'expliquer pourquoi est-ce que cette fracture a lieu aussi. Et dans ton livre, tu expliques, c'est parce que précisément les femmes indigènes sont violemment touchées par des politiques de développement justement qui s'affichent comme étant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes, etc. mais qui en réalité ont des effets non seulement destructeurs, les effets destructeurs habituels des politiques néolibérales, mais qui ont en plus une dimension genrée, dans le sens où elles peuvent renforcer des stéréotypes genrés, etc. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que la critique du néolibéralisme et des politiques de développement, c'est quelque chose qui existe, qui maintenant commence à être un petit peu connu. Mais en général, l'impact sur les femmes est peut-être moins connu. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Alors, par rapport à la question des discussions entre féminisme institutionnel et féministe autonome dans le contexte des mouvements latino-américains des Caraïbes, alors là, je ne suis pas une spécialiste, je m'appuie sur beaucoup d'autres travaux auxquels je renvoie dans le livre. Mais déjà, une précision. C'est pas nécessairement des femmes ou des féministes indigènes qui étaient dans les courants autonomes. De manière assez générale, les femmes indigènes et les femmes racisées, les femmes noires en Amérique latine et les Caraïbes ont été très minoritaires dans les mouvements féministes. Donc c'était en général des femmes métisses qui étaient... puis il faut bien le rappeler, quand on dit métisse, il y a un problème de traduction là, mais mestizas, vraiment, en tout cas au Mexique, en Amérique centrale, ce sont des positions dominantes. C'est un peu long à expliquer, mais la question du métissage n'est pas du tout la même comme on peut la connaître dans d'autres régions anciennement colonisées ou même ici en Europe. Mais disons qu'on est dans un rapport où les femmes métisses sont plutôt considérées comme des femmes entre guillemets blanchies, qui ont plutôt une position dominante dans les rapports de race, juste pour précision en fait. Et donc, les femmes indigènes et les femmes afro de la région ont été quand même fortement minoritaires dans ces mouvements. Mais effectivement, il y a eu ce débat entre autonomes et institutionnels qui a traversé les mouvements, qui parfois a provoqué des graves conflits, et qui était lié principalement à la question de l'ingérence dans les mouvements à partir du milieu des années 70, avec l'année mondiale des femmes décrétée par l'ONU, et puis la première conférence sous l'égide de l'ONU, la première conférence des femmes à Mexico en 75. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un dispositif en fait institutionnel, de programmes, d'ONG, de politiques plus assistentialistes, de programmes qui sécarisent aussi un peu les questions, quoi, qui vont plutôt développer des projets sur la santé, sur l'éducation, plutôt que justement des mouvements comme on avait des mouvements féministes. À Mexico par exemple, ou dans d'autres grandes villes qui étaient beaucoup plus sur ce mode années 60-70, plutôt l'autonomie, plutôt des petits collectifs, plutôt une vision transformatrice des rapports sociaux, anticapitalistes, etc. Et une vision aussi très antipatriarcale, alors que plus tard, dans les années 80, avec toutes ces politiques, disons plutôt de développement, plus assistentialiste, plus top-down, vraiment vertical, on va être dans une vision beaucoup plus de l'équité, l'égalité, de l'intégration finalement dans un système sur différentes questions comme la santé ou l'éducation par exemple. Et c'est ce que les féministes autonomes ont beaucoup critiqué comme une perte d'autonomie en fait du mouvement féministe avec une sorte de mainmise. Et ça a été aussi pensé comme une forme de colonisation en fait, de colonisation de la pensée, de colonisation des mouvements, aussi avec toute une série de concepts. Je parlais tout à l'heure du concept de genre, par exemple, qui n'a pas toujours été bien reçu, et qui était finalement fortement dépolitisé. C'était plus un concept féministe, mais c'était finalement une sorte de d'outil des politiques de l'ONU ou d'autres organismes, qui n'avaient plus tellement autre chose que cette question d'indicateurs et de politiques plus institutionnelles. Et donc, c'est un peu face à ça qu'elles vont tenter de défendre leur autonomie, de défendre une vision qui est à la fois une vision antipatriarcale, radicale, et également une vision de l'autonomie vis-à-vis des partis, notamment. Il y avait toute la question de comment le mouvement aussi en s'institutionnalisant a pu se rapprocher de certains partis. Ça, c'est quelque chose que les féministes autonomes ont toujours défendu. Après, la question recoupe pas nécessairement l'opposition de race. Je ne sais pas si c'est clair, mais la question du racisme, c'est quelque chose qui va aussi surgir au sein des mouvements de la région, mais qui va pas nécessairement être porté par des féministes autonomes. Enfin, je veux dire, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un, ça coule pas de source. Et puis c'est pas le fait que des féministes autonomes avaient cette critique-là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles avaient toujours une autocritique sur leur position en tant que métisse. Par contre, alors plus récemment, il y a eu des rencontres qui ont vraiment mis en avant la question de l'intersectionnalité. Enfin là, il y a vraiment un fort rapport de force qui a été constitué maintenant au sein des différentes rencontres féministes latino-américaines, avec une tendance de plus en plus de courants, de mouvements, de personnes qui aussi de femmes racisées qui posent cette question du racisme et de l'intersectionnalité. Donc voilà. Et par rapport aux politiques de développement, oui. Alors moi, j'ai un petit peu analysé ça dans le cadre des politiques de genre et du mouvement autonome en Amérique latine, mais je l'ai fait de manière vraiment un peu générale, comme un cadre un peu général. Moi, j'ai surtout analysé la question de la manière dont les politiques de développement dans les régions étudiées, donc au Chiapas et puis dans deux régions du Honduras, comment elle véhiculait en fait un système de catégorisation, mais aussi de rapports de force, de rapports sociaux, marqué par ce que le sociologue péruvien Aníbal Quijano appelle la colonialité du pouvoir, autrement dit les relations coloniales de pouvoir dans l'actualité. Donc, pas nécessairement, évidemment qu'on n'est pas dans le colonialisme, enfin, on parle de pays qui ont une indépendance au début du 19e siècle, donc il faut quand même le rappeler, en tout cas l'Amérique centrale et le Mexique. Par contre, on est dans un système de relations, de pratiques sociales et aussi de pensée qui est encore très fortement marqué par justement la colonialité. Et moi, j'ai analysé en fait ça au prisme de la question du développement. Donc comment certaines politiques de développement, par exemple des développements autour de politiques de développement touristique de certaines régions, et notamment de développement ethno ou éco-touristique, qui justement utilisent en fait les catégories dites ethniques, qui semblent leur valoriser en fait les communautés, les cultures, la diversité. Enfin, c'est vraiment un discours qui est très fort, hein, qui a été vraiment intériorisé, intégré par, non seulement par l'État, mais aussi par le privé, enfin les entreprises privées ou les ONG aussi, qui font le relais un peu entre les politiques de développement et le secteur privé, et du coup qui ont vraiment intégré cette dimension-là, mais en fait dans des politiques qui évidemment restent marquées par des rapports capitalistes, qui font la promotion d'un développement, mais qui est finalement un développement, c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, en fait d'orientation totalement néolibérale. Pour donner un exemple, par exemple des politiques qui vont... Je sais pas, ils vont développer par exemple des projets dans des communautés sous justement le label ethnique ou éco. Et en réalité, il s'agit de marchandiser des services qui étaient jusque-là gratuits, qui étaient effectués par la communauté sur des formes d'entraide ou par exemple du travail artisanal où les personnes sont fortement incitées à développer une forme d'entrepreneuriat indigène. Donc ça, c'est vraiment un terme qui revient systématiquement dans les entretiens que j'ai fait avec des acteurs de la coopération. C'est vraiment l'entrepreneuriat indigène qu'il faut que les gens cessent d'être assistés, je mets des gros guillemets, donc c'est vraiment les propos de certains acteurs, pour inciter les personnes en fait à plutôt quitter un espace communautaire, collectif, d'entraide, qui par ailleurs constitue des formes de résistance anticoloniale, historiquement, pour aller vers des formes beaucoup plus individualisées de possession de la terre, ou de services, justement de production d'artisanat, de différentes interventions dans le cadre du tourisme. Et ça c'est vraiment quelque chose qui traverse, en tout cas, les différentes politiques d'ONG que j'ai analysées dans ces communautés-là, mais avec vraiment cette vision, à mon sens, très marquée par la colonialité, qui est de reproduire une vision de l'altérité, de l'autre, l'indigène, ou les personnes afro-descendantes aussi sur la côte des Caraïbes, qui est en fait comme dans une sorte de zoo, qui est mis là comme une figure muséographique, complètement folklorisée, complètement objectivée, évidemment, utilisée dans des rapports marchands, soi-disant valorisés, parce que c'est ça le discours officiel, hein, c'est valoriser les cultures, lutter contre la pauvreté, grâce à l'entrepreneuriat individuel. Mais en fait, là où on voit bien que c'est un traquenard, c'est qu'à côté de ce type de projet, les mouvements, par exemple, vont défendre le fait qu'ils sont... Ils sont peut-être expulsés de terre, ils vont donc se positionner pour pouvoir garder les terres, ils vont se positionner par rapport à des méga-projets du type barrage, du type méga-complexe touristique. Et là, très concrètement, il n'y a plus de valorisation. Donc, très concrètement, les indigènes au présent qui luttent pour des droits, pour l'autodétermination, bah là, c'est la répression, c'est la violation des droits fondamentaux, c'est des assassinats, comme l'assassinat de la camarade Berta Cáceres en Honduras il y a 2 ans, en 2016, qui était une femme féministe, écologiste, indigène, lenca, radicalement engagée notamment contre un barrage, la construction d'un barrage dans une communauté indigène Lenka, et qui a été assassinée. On sait très bien quels sont les liens avec l'entreprise en question, les responsables politiques, etc. Donc c'est un exemple, c'était une figure de proue d'un mouvement, assassinée en toute impunité. Donc c'est ça le vrai visage, en fait. Face aux indigènes qui se posent en sujet, et non pas en objet touristique, eh ben, le vrai visage, c'est la répression. Concrètement. Et du coup, ben moi, il m'a semblé intéressant de voir comment, dans ces différents projets de développement, il y a vraiment une reproduction d'une image coloniale des communautés et des populations indigènes qui participent en fait aussi à diviser les gens parce qu'on introduit des programmes financiers. On introduit aussi une forme de concurrence entre les gens et qui participe à cette décrédibilisation d'une vision justement politique et militante d'affirmation de soi. Donc ouais, moi j'ai l'impression en tout cas dans ce contexte-là, hein, je pense pas qu'on peut non plus généraliser à tous les programmes de toutes les ONG, hein, bien sûr, il faut aussi lire le bouquin pour voir, mais en tout cas il me semble qu'à travers la question du développement, on est dans une forme de dispute qui à mon avis est fortement marquée par des catégorisations coloniales et où se joue justement cette question de soit on a d'un côté justement, des gens qui disent « nous, on veut », comme le disent par exemple les apatistes ou Chiapas, hein, avec les municipalités autonomes, on veut pouvoir développer notre autonomie culturelle, notre autonomie territoriale, notamment par rapport à la question des ressources, sans être forcément dans une logique de séparation d'État, hein, pas du tout, mais en tout cas d'autonomie territoriale locale, contrairement à une vision qui tend à réenfermer l'autre dans quelque chose qui est toujours défini de l'extérieur, toujours. Alors, ça donne des choses assez incroyables. Hein. Par exemple, pendant des décennies au Mexique, on a interdit le port de certains vêtements indigènes, ou bien le fait de parler certaines langues indigènes. Et puis maintenant, eh bien, les politiques institutionnelles qui recensent qui sont les indigènes et qui ne sont pas des indigènes, parmi les critères, il y a le fait de parler une langue indigène. Donc c'est de nouveau, si on veut, l'extérieur, le dominant, qui va définir qui est l'autre dans un rapport de domination. Donc pour moi, la question des coloniales, là, elle est aussi la revendication de l'autodétermination, complètement.
Oui, c'est effectivement, comme tu le dis dans ton ouvrage, il y a une forme de folklorisation de la culture à des fins marchandes. Et à des fins aussi de pacification sociale. Et en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce que toutes ces politiques de développement jouent comme des moyens, effectivement, pour briser les résistances indigènes. Tu dis que finalement, par rapport au Chiapas, sur lequel d'ailleurs on a fait une émission avec Jérôme Bachet, en fait, toutes ces politiques de développement, d'assistance, en fait, elles font partie de la version moins directement violente de la contre-insurrection à partir de la deuxième moitié des années 90. Et que du coup, d'une certaine manière, il y a des politiques de développement, elles essayent justement de briser ces résistances indigènes dont tu parles dans la dernière partie de ton ouvrage, de deux manières. D'une part, d'une manière violente, hein, comme tu l'as dit. Là, on renvoie notamment à l'ouvrage de Jules Falquet, Pax Neoliberalia, qui parle pas mal de la violence quasi coloniale, hein, contre les résistances indigènes en Amérique du Sud et aux Caraïbes. Et puis d'autre part, par la transformation de ces communautés en une espèce de zoo touristique capitaliste, où on essaye de néolibéraliser les sujets tout en les traditionnalisant en même temps, enfin une espèce de... Ben voilà, clairement, on essaye de transformer leur culture en une espèce de production de marchandises de niche pour plaire aux touristes. Voilà, c'est un mécanisme assez classique dans le capitalisme. Et effectivement, c'est intéressant de voir que les politiques de développement, évidemment, c'est la critique du développement, elle est quand même relativement connue depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Mais bon, là, on a des exemples très concrets. Et peut-être pour finir, quels sont les effets, on en a parlé un petit peu, mais peut-être un peu plus spécifiquement, est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples justement des effets plus spécifiques sur les femmes de ces politiques de développement assistentielles?
Alors, en ce qui concerne les politiques assistentialistes, dans le contexte du Chiapas et de la répression des mouvements insurgés, notamment les mouvements zapatistes. Alors, ça a été, comme tu l'as dit, hein, c'était vraiment un instrument qui a été pensé comme une manière de briser le mouvement, de diviser les collectifs très clairement. D'ailleurs, ils y sont quand même parvenus en partie avec toute une série de programmes qui ont pris différents noms depuis les années 80 déjà, et qui s'adressaient... Alors, en l'occurrence, il y a un programme qui était un programme de distribution d'aide financière, mais vraiment extrêmement minimaliste, et qui visait en fait à lutter contre la pauvreté dans les régions indigènes paysannes, et qui était en fait adressé aux femmes. Donc moi, dans le travail que j'ai fait avec une coopérative de femmes Tajolabales, la région frontière avec le Guatemala, qui était aussi un collectif qui était assez proche des zapatistes, mais sans être à l'intérieur de les EDN. Eh bien, elle, Tomei Shuk, qu'elle s'appelle, ça veut dire femmes organisées en Tajolabal, eh bien, elles ont beaucoup, beaucoup de conflits à l'intérieur de leur collectif, parce qu'il y avait cette pression de l'État à accepter ces programmes, et une pression des maris, des frères, des maris, des hommes de la famille, à ce qu'elles touchent cet argent, parce que c'est un argent qui était destiné aux femmes, parce que l'État considérait que les femmes géraient mieux l'argent. C'est comme le microcrédit, qui est en général destiné aussi aux femmes. Donc c'est toujours les femmes gestionnaires de la misère, avec ce type de mini-projet productif ou microcrédit. Et dans ce contexte-là, elles étaient souvent contraintes de quitter le collectif parce que leur époux voulait pas qu'elles refusent, parce que la politique des apatistes, et en l'occurrence la politique de ce collectif, cette organisation pour laquelle je travaillais, c'était la politique de la résistance. Donc ils refusaient d'avoir tout contact avec l'État, et donc évidemment de toucher un quelconque argent de l'État. Et ça voulait dire que tant qu'elles étaient dans l'organisation, eh bien, les femmes ne pouvaient pas toucher ce type d'aide, en gros guillemets. Et ça créait justement ces conflits. Et la famille, parfois, les forçait à lâcher l'organisation pour toucher cet argent qui était ensuite accaparé par le mari. Ça a vraiment été une histoire de division terrible pour les femmes, qui a énormément miné l'organisation. Bon, ça, c'est un exemple, c'est clair que, de manière beaucoup plus globale, ces politiques de développement qui imposent un certain nombre de programmes dans les communautés, qui vont avoir des effets, par exemple, aussi sur la terre, sur l'accès à la terre, sur l'écologie, sur la dégradation des conditions de vie des personnes. Par exemple, prenons l'exemple des populations garifunas en Honduras, avec lesquels j'ai donc aussi travaillé dans certains villages. Et là, il y a un méga complexe touristique qui s'est développé, avec un discours de l'État et des entreprises sur le tourisme éco, avec justement cette idée de créer des activités, des attractions touristiques dites indigènes, donc. Et en fait, l'impact de ce type de complexe, il est énorme sur, par exemple, l'accès à la mer, l'accès à la plage, l'accès à la pêche, la possibilité pour les femmes, par exemple, de vendre leurs produits de manière autonome, hein, pas justement pour dans un complexe commercial. Donc, l'impact sur l'économie, il est direct sur la réduction de leur territoire, en fait, qui est un territoire qui a été historiquement toujours de plus en plus réduit. Et là, les femmes sont aux premières lignes. C'est les plus pauvres, c'est celles qui ont moins déjà accès à la terre. Et c'est souvent elles qui se retrouvent à gérer aussi des familles monoparentales, à devoir faire vivre plusieurs enfants avec rien. C'est évident que ce type de politique, pour les femmes, va avoir un impact qui est énorme, quoi. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on pourrait citer.
Oui, et donc effectivement, on voit bien dans tout ça la nécessité d'un féminisme décolonial, précisément parce que, que ce soit, de manière peut-être encore plus visible en Amérique du Sud, et aux Caraïbes, où là, les rapports de colonialité sont encore plus brutaux qu'ici, encore que ça se brutalise. Mais aussi en Occident, qu'il y a la nécessité d'articuler une résistance au capitalisme et notamment aux politiques néolibérales, une résistance au patriarcat avec des S, du coup, et une résistance ou une remise en cause également, une déconstruction des rapports coloniaux, néocoloniaux, des représentations coloniales et néocoloniales qui, en plus, sont souvent, comme le livre me le montre bien, bon ménage avec, finalement, avec le sexisme et avec le capitalisme et les politiques néolibérales. Et certaines mauvaises langues ont pu dire que, toutes ces réflexions sur la critique décoloniale et tout ça, finalement, étaient... presque mainstream, je pense que là on a démontré le contraire, c'est-à-dire que, entre guillemets, que le féminisme et la critique sociale de manière plus générale doit être décoloniale si elle ne veut pas reconduire des rapports d'oppression et des visions idéologiques héritées du colonialisme. Donc, merci Sabine Masson de nous avoir présenté ton livre. Et on invite les personnes intéressées à le lire entièrement. Notamment, il y a beaucoup plus de détails sur quelque chose dont on a moins parlé, sur la partie sur le Honduras qui est très intéressante. Et puis, il y a une bibliographie et présentation un petit peu de tous les travaux qui ont été faits, les critiques, tous les textes politiques, théoriques qui ont été faits sur ces questions qui est très intéressante.
Ouais, merci. Je vais peut-être juste pour conclure dire une chose disons par rapport à ce livre et la question des coloniales aussi dans la recherche, dans les travaux, que en fait ce livre c'est l'aboutissement aussi d'un autre livre qui a été fait au Mexique. Donc après ma thèse, et puis qui a été coécrit avec les femmes indigènes avec lesquelles j'ai travaillé, qui relate justement l'histoire de cette organisation de Tsameishuk, et qui possédée et vendue par la coopérative de femmes indigènes, qui diffuse ce bouquin, à partir de leur organisation. On a fait aussi des tournées avec le livre ensemble, avec des échanges où il y avait justement des féministes, métisses, indigènes, blanches. Et du coup, pour moi aussi, alors je ne veux pas du tout dire que c'est un aboutissement, qu'il y a beaucoup de choses qui sont limitées dans ce travail-là, mais la tentative, en tout cas, c'est d'aller vers une volonté, un essai de décoloniser aussi les modes de diffusion de la pensée, de la réflexion, du savoir, notamment en lisant les femmes et les féministes indigènes et en travaillant avec elles pour aussi diffuser ensuite le résultat de toutes ces années de travail. Voilà, et merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.